RCF.
Il est 18h10, vous êtes sur RCF, c'est l'heure des 18-19 en région. Nous rejoignons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
18-19 régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, avec encore une fois un beau programme. J'ai envie tout de suite de vous interroger Alexis sur le sport, la disparition du goal de l'équipe de Reims, qui était très connu du temps de Coppa, de Piantoni, qui a fait le goal, qui était donc Dominique Colonna, et qui a été quand même... un grand du football.
Effectivement, des emblématiques gardiens, des rouges et blancs à la fin des années 50, qui s'en est allé ce matin à l'âge de 95 ans. Notamment à noter dans son palmarès en 1959 le doublé Coupe de France championnat réalisé avec le Stade de Reims, ses 13 sélections avec l'équipe de France de football, et à l'âge de 95 ans il était le doyen de cette équipe de France.
Et puis deuxième rendez-vous important, cette fois dans un tout autre domaine, c'est l'émission spéciale demain de 18h10 à 19h que vous pourrez suivre ensuite avec des podcasts, des vidéos, des YouTube, tout ce que vous voulez, avec Mgr Étienne Veteux, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Reims.
Ben voilà, ça fait un beau programme. Jean-Pierre, on peut regarder également ce qui va se passer ce soir, où on va s'intéresser à Saint-Jacques-de-Compostelle avec Jean-François Boulanger dans un numéro de Mémoire chrétienne. On s'intéressera aussi à un pèlerinage paroissial autour de Notre-Dame de la Salette en l'église de Scrue. Ça se passe dans le Pertois, le troisième dimanche de septembre. Vous l'avez compris, on vous emmènera dans le diocèse de Chalon. Quelques invités à votre micro, Jean-Pierre. Ce soir, on parlera médecine avec le docteur Hervé Ruinard.
Hervé Ruinard, et puis peut-être ira-t-on à la rencontre du maire de Breuil-sur-Vel, Bertrand Boilly.
Tout à fait, nous irons dans quelques minutes à 18h20 notamment, et puis on parlera du château d'eau du côté de Broussy-le-Grand qui avait une effraction fin août, et finalement tout va bien, la situation a été rétablie, c'est ce que nous dit l'Agence Régionale de Santé.
Et puis place à l'actualité, même si on n'en parle pas tout de suite, vous étiez à la rencontre du recteur de l'Académie de Reims, c'était tout à l'heure avec les différents DAZEN, les inspecteurs d'académie des départements.
Effectivement, on y reviendra à l'intérieur du journal régional où on évoquera aussi les vendanges, parce qu'entre forte chaleur et pluie, vous le savez, Jean-Pierre, ce n'est pas une situation facile. Il faut à la fois préserver la vigne, mais aussi prendre soin des vendangeurs.
Alors tout de suite, on retrouve votre chroniqueur, Alexis.
C'est notre chroniqueur à tous, on le partage avec les auditeurs.
Chroniqueur du mardi, il est avec vous, Alexis.
Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Saint-Jacques de Compostelle, épisode 2, dans la continuité de la semaine dernière où nous avions commencé à nous pencher sur l'évolution à travers le temps de la signification que prend le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Vous nous avez dit que ce pèlerinage s'ancrait dans la longue durée historique. Nous avons évoqué la dernière fois le contexte de l'apogée de ce pèlerinage au Moyen-Âge. On avait d'ailleurs fait une conclusion provisoire. Cependant, ce pèlerinage entre ensuite dans une période plus difficile. Pourquoi Jean-François ?
Eh bien, justement, on a dit la dernière fois que le pèlerinage avait atteint son apogée au XIIIe siècle. Et ensuite, divers événements vont provoquer la diminution de sa fréquentation. Il y a d'abord eu la peste noire de 1348, une épidémie qui s'est prolongée dans le temps et qui a entraîné une forte chute de la population de l'Europe, entre 30 et 50% de la population selon diverses estimations. Et dans ce contexte, les villes ont fermé leurs portes à ceux qui venaient de l'extérieur et qui pouvaient amener l'épidémie, imposer des quarantaines aux voyageurs. Donc les pèlerins, quand ils arrivent quelque part, ne sont plus les bienvenus. Donc le pèlerinage a moins de pèlerins. Il faut ajouter à cela les troubles qui sont liés à la guerre de Cent Ans.
Cependant, après la peste noire, le pèlerinage pourrait reprendre son cours normal.
Normalement, oui. Mais justement, la peste va rester un danger important en Europe jusqu'à la dernière grande épidémie, celle de Marseille en 1720. Et encore en 1569, la ville de Compostelle prend des dispositions contre les pèlerins, vagabonds sous l'apparence et cause du pèlerinage, atteints de maux contagieux, je cite. Leur séjour est donc interdit au-delà de 3 jours, sous peine d'être attaché au pilori pour une durée de 4 heures et de recevoir 200 coups de fouet, si, après avoir accompli la première peine, on les retrouve en ville sans avoir un maître, autrement dit, s'ils ne sont pas des domestiques. Et en 1577, la municipalité de Léon, en Espagne, recherche une ou deux personnes pour la garde des ponts, pour empêcher l'entrée dans cette ville des pèlerins ou des pauvres qui viennent de Compostelle et de Galice, parce qu'on a appris que dans ces terres sévit la maladie de la peste.
Le déclin relatif du pèlerinage de Compostelle, Jean-François Boulanger, s'explique-t-il uniquement par les épidémies et les guerres ou est-ce qu'il y a quand même d'autres facteurs ?
Ah, il y a d'autres facteurs, incontestablement, et des causes qui sont strictement religieuses pour le coup. D'abord, il y a l'apparition de la réforme protestante qui s'en prend au culte des reliques et qui met en cause les pèlerinages liés aux reliques. Saint-Jacques de Compostelle, évidemment, en fait partie. Ajoutez à cela que les guerres de religion, à leur tour, perturbent le déplacement des pèlerins. Et vous imaginez que pendant les guerres de religion, un pèlerin de Saint-Jacques avec sa coquille qui tombe entre les mains d'un protestant va peut-être passer un mauvais quart d'heure. Et l'Espagne de Philippe II, qui craint la propagation du protestantisme, décide de fermer ses frontières et va entraver du même coup le fonctionnement du pèlerinage. Et ultérieurement, la contre-réforme catholique va favoriser le culte de la Vierge Marie. Et de ce fait, c'est un autre lieu qui va devenir important en tant que lieu de pèlerinage, c'est la Sainte Maison de Lorette, qui se trouve en Italie, qui est consacrée, le premier sanctuaire marial international consacré à la Vierge Marie, et qui va devenir pendant près de 3 siècles le principal centre de pèlerinage en Occident, et qui va offrir aux pèlerins des structures d'accueil comparables à ce que le chemin de Saint-Jacques offrait par ailleurs. Enfin, au XVIIIe siècle, on assiste à une légère reprise du pèlerinage, mais la pensée des Lumières accentue les critiques vis-à-vis du culte des reliques et à l'égard des pèlerins qui sont considérés comme des vagabonds oisifs, voire immoraux, qui abuseraient de la naïveté des habitants et de la charité publique. Donc les difficultés administratives sur le chemin de Saint-Jacques se multiplient avec l'affirmation des États modernes qui se méfient des gens qui se baladent d'un État à l'autre et l'augmentation de la surveillance des déplacements sur le territoire. Enfin, la Révolution française et l'occupation de l'Espagne par Napoléon vont accroître les difficultés. Et dernier élément, en Espagne en 1836, les biens de l'Église sont saisis. Donc on arrive finalement à une situation extrême où la cathédrale de Compostelle n'accueille que 40 pèlerins pour la fête de l'apôtre Saint-Jacques en 1867.
Comment et quand le pèlerinage ressuscite-t-il ? Parce qu'il faut le dire comme ça.
Voilà, effectivement, il n'y a presque plus personne. Et puis, se produit en 1879 ce qu'on a appelé, entre guillemets, la redécouverte des reliques de Saint-Jacques. En effet, ces reliques dont on a parlé lors du premier épisode, on les avait cachées à la fin du XVIe siècle pour les mettre à l'abri d'une attaque de corsaires britanniques et notamment de Francis Drake. Donc les reliques avaient été cachées, si bien cachées qu'on ne les a jamais retrouvées, tout au moins pendant longtemps. Et ce sont des fouilles archéologiques sous le cœur de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle qui permettent de les retrouver à 1 mètre sous le sol de la cathédrale, ainsi que le tombeau entre guillemets original où elles avaient été à l'origine découvertes. Et donc, voilà, on sait que le regard des reliques était devenu plus critique. Par conséquent, par un procès canonique, on va procéder à un examen attentif de ce qu'on a retrouvé. Un procès canonique qui conclut que les reliques retrouvées sont bien les reliques de Saint-Jacques que l'on honorait au Moyen-Âge. Et dans sa lettre apostolique Deus Omnipotens du 1er novembre 1884, le pape Léon XIII va officialiser la reconnaissance de ces reliques et inviter l'ensemble du clergé à publier cette lettre. Et c'est une manière pour le pape de relancer le pèlerinage.
Mais alors, je vous provoque un petit peu, Jean-François Boulanger, mais pourquoi le relancer, ce pèlerinage ?
Alors, parce que nous sommes en 1884 et que Léon XIII, qui a été élu en 1878, cherche alors à sortir le Saint-Siège de l'isolement diplomatique qui résulte du repli sur lui-même auquel avait procédé son prédécesseur Pie IX. Je rappelle que les états du pape avaient disparu donc en 1870 et s'étaient réduits donc au quartier du Vatican. Et c'est un des éléments qui vont l'amener, par exemple, à inviter les Français à se rallier à la République. Et donc l'Espagne, à la même époque, connaît une opposition très forte entre des conservateurs catholiques, qu'on appelle les carlistes, du nom de la dynastie dont ils se réclamaient, et les libéraux, qui sont partisans du nouveau roi, Alphonse XII. Léon XIII, donc, invite les Espagnols à l'unité par une encyclique, Cum Milta, en 1882, et relancer le pèlerinage de Saint-Jacques relève de la même politique de rassemblement des Espagnols à un moment où les grands pèlerinages se développent par ailleurs, notamment à Lourdes. Donc le texte du pape rappelle l'histoire des reliques et se termine par un appel au pèlerinage. Je cite « C'est pourquoi nous confions et ordonnons à nos vénérables frères patriarches, archevêques, évêques et autres prélats de publier solennellement ces présentes lettres chacun dans province, diocèse et cité, de la meilleure manière qu'il jugera à propos, afin que cet événement très heureux soit partout connu et que tous les chrétiens le célèbrent avec un zèle et une piété plus grande et qu'ils entreprennent les pieux pèlerinages à ce saint tombeau comme nos ancêtres avaient coutume de le faire.
Mais alors, comment cette lettre va-t-elle être répercutée par les diocèses français ?
Une étude a été faite sur 69 diocèses et elle montre que 33 d'entre eux ont mentionné l'information de façon relativement restreinte sur le modèle du type suivant. À la date du 1er novembre 1884, Léon XIII a confirmé par des lettres apostoliques le jugement porté par le cardinal archevêque de Compostelle sur l'identité des corps de Saint Jacques Majeur, des saints Anatas et Théodore, ses disciples. C'est un document précieux pour l'Espagne et une page nouvelle ajoutée à l'histoire de l'Église. C'est comme ça que, d'ailleurs, au diocèse de Chalon, on en parle.
Donc, mais que 28... font les autres diocèses ? Parce que 28... vous nous dites 33 d'entre eux, donc il en reste quelques-uns sur 69.
Il en reste donc un certain nombre qui publient la lettre du pape ou une lettre d'évêque annonçant cette lettre, soit les deux ensemble, accompagnés ou non d'une information du type précédent. C'est le cas dans le diocèse de Reims, où on donne l'information et on publie une lettre épiscopale. Et donc, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Eh bien, à Chalon, on invite les fidèles à visiter les églises dédiées à Saint-Jacques, notamment Saint-Jacques de Chalon. À Reims, l'archevêque indique deux dates distinctes pour la visite donc, des églises. Le 26 juillet, fête de Saint-Jacques dans l'église Saint-Jacques de Reims. Et le 15 août suivant, fête de l'Assomption dans toutes les églises paroissiales du diocèse. Donc, voyez, l'idée d'aller à Compostelle ne semble pas s'imposer. Mais l'heure est pourtant au développement des pèlerinages. C'est d'ailleurs en 1873 qu'on a créé justement un hebdomadaire qui s'appelle Le Pèlerin, c'est significatif. C'est une tendance de fond, mais Le Pèlerin lui-même se contente d'affirmer « Ce n'est guère le moment de parler de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque les Espagnols nous ferment leurs frontières avec un soin féroce. Néanmoins, nous voulons publier un document important de la cour de Rome et suit une information très courte sur le texte de Léon XIII. »
L'impact de la lettre de Léon XIII semble donc assez limité en France.
Voilà, effectivement, nous sortons d'une longue période de torpeur et la lettre de Léon XIII va au moins avoir le mérite de relancer le débat, mais c'est sur le long terme qu'elle va avoir un impact.
Merci Jean-François Boulanger, on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 3.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h23 sur l'antenne de RCF, un maire, une commune à l'honneur ce mardi, Bertrand Boyi, maire de Breuil-sur-Velle dans la Marne, est à votre micro Jean-Pierre.
Bertrand Boyi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors bonjour monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter géographiquement et puis la population de Breuil-sur-Velle, parce que on a des auditeurs aussi des Ardennes, alors on aimerait bien situer un petit peu votre commune.
Alors, Breuil-sur-Velle, c'est une charmante petite commune située dans l'Ouest Rémois, à 20 km environ de Reims, entre Joncherie-sur-Velle et Fismes. Et l'accès se fait essentiellement par la RN 31 ou la ligne TER Reims-Fismes.
Vous êtes maire depuis plusieurs années, Bertrand Boyi ?
Oui, je suis maire depuis 2008. Je suis à la moitié de mon troisième mandat.
Mais vous avez toujours bien aimé. Enfin, c'était un peu inscrit dans votre ADN. Vous vous êtes impliqué, de façon régulière. Et puis voilà, c'est venu comme ça ou...
C'est un peu ça. Alors je ne sais pas si c'est une question d'ADN, mais on dirait que petit, j'aimais bien représenter les autres, délégué de classe, capitaine de mon équipe de handball, chef scout, etc. On est toujours intéressé par l'actualité, la politique au sens de la vie de la cité. Et donc après, il n'y a rien de programmé, mais les hasards de la vie, l'ancien maire qui m'a proposé de rejoindre le conseil municipal en 2001, et puis les choses se sont faites, naturellement.
Combien d'habitants dans la commune aujourd'hui, et quel est le type d'activité des habitants ? Des agriculteurs, des viticulteurs, des retraités, des...
Actuellement, on a environ 350 habitants sur la commune. Je dirais que ce sont plutôt des actifs qui travaillent sur le bassin rémois, Reims et ses communes riveraines. On a une exploitation agricole sur la commune. Anciennement, c'était une commune très très industrielle. Il y avait deux briqueteries qui étaient situées dans la commune, mais qui ont fermé dans les années 70, avec un petit déclin de population derrière. Et depuis les années 2000, le regain d'immobilier sur l'Ouest rémois et des gens qui viennent là pour y trouver, je dirais, le calme et puis la campagne.
Je vous interromps, monsieur le maire, mais souvent, oui. C'est une remarque que les maires font quand ils sont pas très loin d'une grande agglomération ou d'une commune, d'un bourg-centre. Ben, il y a beaucoup de gens qui aiment bien être à la campagne aujourd'hui. Peut-être que c'est un effet Covid, hein, j'en sais rien, mais il y a quand même le plaisir d'avoir un petit jardin, d'être à l'air, d'être pas loin de la ville. Un cadre de vie quand même à Bruy-sur-Vesle.
C'est exactement ça. Avoir le petit bout de jardin, pouvoir discuter avec son voisin, se dire bonjour dans la rue quand on se croise, avoir l'impression d'être appartenir à une petite communauté, je dirais, voilà, avoir un point commun et être effectivement un peu loin de la, enfin loin sans être loin en fait, c'est ça, de la vie urbaine.
Alors c'est vrai qu'il y a des maires qui ne veulent plus reprendre du service parce que il y a quand même des responsabilités maintenant.
Alors, il y a beaucoup de responsabilités, il y a un champ d'action qui est assez énorme, hein, ça va du social à l'urbanisme, passant par l'organisation des cérémonies, les énergies renouvelables, etc. Donc c'est vrai que le champ est énorme, il y a beaucoup de responsabilités, on a parfois l'impression d'être un peu abandonné des services, mais enfin bon, on fait ça parce qu'on a quand même l'impression d'être utile, donc on s'accroche, je dirais.
Alors il est vrai, Bertrand Boilly, que souvent le maire est sollicité, mais il y a quand même les communautés de communes, il y a aussi le Grand Reims aujourd'hui. Alors c'est une question que je pose à chaque maire dans les communes, c'est avouez-vous encore le sentiment, moi je pense que c'est vrai, d'être un peu quand même le patron de la commune, quoi, vous êtes resté le patron, même si il y a des décisions qui sont discutées dans d'autres instances.
Oui, bah écoutez, les choses ont changé effectivement. Ça a été peut-être un petit peu compliqué au début pour comprendre le fonctionnement, le mécanisme et les rouages de tout ça. Mais effectivement, moi je reste persuadé qu'on reste quand même patron chez nous. On a quand même le droit de parler. Ça nous permet aussi, il y a quand même des sujets qui sont au-delà de la commune et qui sont importants dans leur retombée sur la commune. Donc le Grand Reims, ça permet ça. Non, on a gardé quand même capacité à décider. Bon, pas de tout. Effectivement, il y a des lourdeurs administratives, mais il y a aussi une capacité financière qui est autre dans les communautés de communes. Donc, je pense que c'est un modèle qui, bien utilisé, est quand même meilleur qu'un modèle sans, on va dire.
Alors, Bertrand Boilly, est-ce que vous avez à court terme ou à plus long terme ou à moyen terme des projets en cours avec votre conseil municipal? Est-ce que vous avez 2-3 objectifs que vous vous êtes assignés?
Oui, mais des projets, on manque pas de projets, on a toujours plein de projets. Dans les projets, dans les premiers projets qui me viennent à l'esprit, il y aurait remettre en place une passerelle qui nous liait avant avec la commune des Venteaux et permettrait de la mobilité douce et qui s'inscrirait bien dans le schéma cyclable du Grand Reims. On a ça. On voudrait végétaliser notre cimetière parce que le cimetière c'est quand même un lieu qui maintenant, vu qu'on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires, qui est de plus en plus difficile à entretenir. Disons que le cimetière, c'est un lieu étrange parce que les cimetières sont toujours un petit peu tristes alors que les gens viennent y mettre des fleurs. Donc on s'est dit pourquoi pas y remettre de la verdure pour que le cimetière ne soit plus forcément un lieu triste, mais aussi un lieu effectivement.
Mais je vais vous faire une confidence, ça n'a rien à voir avec l'émission, mais moi j'aime bien les cimetières. Je vis parfois, je suis allé dans des villages, plutôt dans les Ardennes, où à chaque fois que je passe, je m'arrête sur des tombes des gens que j'ai pu connaître, ou des gens que mes grands-parents ou ma grand-mère connaissaient à Warg, dans les Ardennes. Ah, je dis, c'est monsieur un tel, il jouait au boule dans la commune. Et je m'arrête comme si ils étaient tous vivants.
Oui, et c'est pour ça qu'on se dit, pourquoi pas essayer de végétaliser notre cimetière et en faire un lieu agréable entre guillemets, on pourrait presque s'y balader, enfin ça serait agréable, il y aurait des fleurs, un arbre, etc. Donc on a ce projet-là, là on est en train d'y réfléchir, mais ça demande de bien étudier la chose aussi parce que un cimetière, il y a aussi tout est très cadré et il faut quand même un respect aussi du lieu. Donc voilà, ça fait partie de notre projet.
Comment conjuguer la vie professionnelle, la vie familiale et le fait d'être maire? C'est facile?
Alors, Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question et ce n'est pas facile. Non, je dirais que c'est peut-être la partie la plus compliquée du rôle de maire. C'est que quand vous êtes maire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas vous arrêter d'être maire. Donc il y a des moments effectivement où vous n'êtes pas sollicité, mais vous pouvez à tout moment être sollicité. Et donc forcément, ça a un impact sur la vie familiale. Et je remercie d'ailleurs ma famille d'être compréhensive et d'accepter certaines fois qui effectivement on a ce rôle de maire qui est à tout moment dans la commune. On ne peut pas se balader dans la commune sans être le maire. Donc effectivement, des fois, c'est la partie, je dirais, peut-être la plus usante et la plus difficile à travailler.
Alors pour conclure, parce que le temps passe très très vite avec vous, Bertrand Boily de Breuil-sur-Velle, maire de Breuil-sur-Velle, est-ce que vous êtes, je le pose la question à chaque maire tous les jours, est-ce que vous êtes un maire heureux malgré tous les problèmes, les difficultés? Vous aimez ça? Vous êtes un maire heureux? Vous êtes au service?
Eh ben, je vais vous dire oui. Oui, c'est un mandat que j'exerce avec passion. Bon, je dis tout le temps, il y a des pour, il y a des contre, mais si je me représente, c'est qu'au final, je dois trouver que c'est quand même plus positif que négatif comme rôle. C'est vraiment un rôle...
Vous êtes un maire heureux.
Oui, un maire heureux.
Merci Bertrand Boily, maire de Breuil-sur-Velle, d'avoir été avec nous. Et puis, vous savez, vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous avez, comme on dit un peu familièrement, un rond de serviette. On parlera de votre commune si vous le souhaitez. Merci Bertrand Boily.
Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup.
Et ce sera l'occasion demain de retrouver une autre maire. Ce sera Anne Frépon, maire du Mont-Dieu, 14 habitants dans le département des Ardennes. Et savez-vous, Alexis, comment s'appellent les habitants du Mont-Dieu?
Alors ça, je l'ai déjà su, mais je ne saurais pas. Tu veux vous le dire, peut-être les monts divins?
Les montagnards divins.
Ah, les montagnards
divins. En tout
divins.
Cas, le journal que nous avons vivre, il est presque divin. Il est avec vous, il est en direct, il est 18h31, Alexis Claudrette.
Avec les titres de ce mardi 12 septembre, entre forte chaleur ces derniers jours et pluie cet après-midi, les vignerons passent par toutes les émotions en cette période de vendange. Rencontre avec Clovis Toison du côté de Prouilly. Retour sur la journée handicap, inclusion par le sport qui s'est tenue samedi dernier à Vitry-le-François.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudrette.
Avant de développer ses titres, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, faisait cet après-midi le bilan de la rentrée scolaire 2023 sur notre territoire. Il en tire du positif.
Écoutez, une rentrée d'abord très sereine, une rentrée qui a vu l'ensemble de la population, je dirais, faire corps avec l'éducation nationale pour défendre les valeurs de la laïcité. Une rentrée aussi qui est marquée, eh bien, on peut le dire, par une bonne préparation de rentrée avec des enseignants qui, dans le premier degré, sont présents à 100% dans les écoles, avec quelques ajustements qui sont en train de se faire, mais on peut considérer que c'est une rentrée qui a été très bien préparée, qui se déroule très bien.
Vincent Stanek au micro de RCF Reims Ardennes, qui sera d'ailleurs prochainement notre invité. On n'a pas encore de date précise, mais c'est en train de se tramer, Jean-Pierre. Depuis ce week-end, l'ensemble des communes de l'appellation Champagne ont commencé les vendanges. Si quantitativement, aucune question ne se pose, qualitativement, il faudra attendre la fin de la récolte pour dresser le bilan. Ce qui inquiète cette année, c'est la météo, avec d'abord les fortes chaleurs de ces derniers jours qui impactent la vigne. Clovis Toison, gérant du Champagne Yves Loison.
La météo dans notre métier joue beaucoup. On a quand même la chance d'avoir quand même des vignes qui en fait vont puiser très loin dans leurs réserves d'une part et puis dans les réserves de la terre, bien sûr, du sol. Donc ça, c'est quand même une chance comparé à d'autres plantes. Malgré cela, on fait très attention, on fait attention à aérer les raisins, malgré tout à pas trop les exposer au soleil pour pas qu'ils grillent. On fait attention au risque maladie qui est différent, on s'adapte.
Si la chaleur s'en prend aux raisins, elle touche aussi les vendangeurs. Nos confrères de l'Union recensaient hier soir déjà 4 décès sur l'ensemble de l'appellation Champagne pendant ces vendanges 2023. La précaution est de mise.
On essaye de commencer plus tôt le matin. Malgré tout, là, on arrive déjà dans une période où commencer tôt, ça devient compliqué à cause de la luminosité. On s'arrange aussi pour, au lieu de faire une pause par demi-journée, là, on dit à chaque fin de route, on en profite pour faire boire tout le monde. Tant qu'il fait chaud, une journée comme aujourd'hui, ça devrait aller. Mais le reste du temps, c'est la boisson. Il n'y a aucune restriction dessus, évidemment. Et puis des pauses, il faut laisser le temps aux gens, évidemment. Et malgré cela, on peut tout à fait avoir des gens, on a eu des gens et même des gens aguerris qui ont du mal au bout d'un moment dans la journée. Donc il faut savoir laisser le temps aux gens.
Après le soleil est venue la pluie aujourd'hui, une tendance qui inquiétait Clovis Toison lorsqu'on l'a rencontré ce matin.
Au niveau de notre travail en soi, non. Évidemment, ça va pas être très agréable de travailler sous la pluie, notamment. Malgré cela, c'est pas trop un souci, moins un souci que la chaleur. Par contre, effectivement, c'est les risques de dégradation de l'état sanitaire. On parle beaucoup cette année de botrytis, donc de pourriture. Et donc cette pourriture qui pour l'instant est largement maîtrisée à l'échelle de nous, notre terroir, mais aussi je pense en général chez à peu près toutes les exploitations. Malgré cela, avec quelques pluies, ça peut vite exploser.
Les vendanges dans l'appellation Champagne se poursuivent les prochains jours. Pour déguster le champagne, le raisin récolté en 2023 en boisson au champagne, il faudra patienter, Jean-Pierre, jusqu'à 2028. Ça laisse le temps de voir venir.
Ça laisse le temps de voir venir et de boire quand même du vin effervescent, pétillant de notre région.
À l'initiative de la ville de Vitry-le-François, samedi dernier, la salle du manège de Vitry-le-François et le gymnase des Indes ont accueilli la journée Handicap Inclusion par le sport. Le matin, quatre référents de fédérations de sport ont pris la parole pour expliquer le travail réalisé par les associations envers le public issu du handicap, dont Corinne Perrand, présidente du comité Marne de la Fédération française handisport.
On est à Vitry-le-François parce qu'on avait eu une demande il y a plus d'un an pour justement parler du handicap et montrer quels étaient les sports qu'on pouvait pratiquer pour les personnes en situation de handicap. Sport pour renseigner les personnes qui voudraient faire du sport et développer le sport à destination des personnes en situation de handicap sur la zone de Vitry et aux alentours.
Est-ce qu'il existe déjà quelque chose ?
Pour l'instant, on n'a pas de club sur le Vitria. Logiquement, on devrait avoir un club et on... Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir aussi un ou deux clubs ou un club multisport qui se crée pour justement pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. On est prêt à aider aussi des clubs dits valides, comme on les appelle, à pourquoi pas accueillir des personnes en situation de handicap, mais voilà, on est à disposition.
Votre rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter aux associations présentes ?
C'est de se présenter aux associations, c'est de se présenter aux habitants, et puis c'est de dire que nous, on est chargé de développer, puisque moi, j'ai une salariée au comité départemental, et on est chargé de développer le sport, donc il faut être partout sur le territoire marnais. Donc c'est pour ça qu'on est à Vitry aujourd'hui. Et qu'on espère pouvoir revenir pour d'autres choses et d'autres événements.
Est-ce que tous les sports sont possibles pour les personnes à mobilité réduite ?
Pour les personnes à mobilité réduite et aussi les autres, y compris handicap invisible, on peut pratiquer n'importe quel sport. Simplement, on adaptera en fonction de la personne qu'on a en face de nous. On proposera des sports qui leur sont accessibles.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. L'animation musicale était assurée par le groupe Les Imprévisibles, un groupe formé par les travailleurs de l'ESAD du MEX Tiercelin. Renseignements complémentaires auprès du service des sports de la ville de Vitry-le-François au 03 26 62 09 17. Et puis on reste en sport avec du football. On en parlait à l'intérieur des titres de ce magazine régional. Le Stade de Reims est en deuil. Dominique Colonna, emblématique gardien des Rouges et Blancs à la fin des années 50, s'en est allé ce matin à l'âge de 95 ans. Il avait notamment remporté le doublé Coupe de France championnat en 1959. Dominique Colonna a aussi porté le maillot de l'équipe de France de football, dont il était le doyen, à 13 reprises. 18h38, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Nos correspondants en région aussi font leur rentrée. Nous prenons la direction du sud-ouest de la Marne avec Cyril Laurent, président de la communauté de communes de Cézanne dans le sud-ouest marnais, qui revient sur les projets réalisés à mi-mandat et l'effraction du 27 août 2023 au château d'eau de Broussy-le-Grand, puisque la consommation d'eau de 10 à 15 communes du sud-ouest marnais a été suspendue pendant plusieurs semaines, le temps que l'Agence régionale de santé analyse la situation. Il est au micro RCF Cœur de Champagne de Christian Lanciot. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cyril Laurent.
Bonjour Christian.
Vous êtes président depuis 2020 de la communauté de communes Cézanne Sud-Ouest Marnais. Alors on peut dire que vous êtes à mi-mandat. Et avant de nous parler des perspectives ou des projets donc pour l'année qui vient, et sans vouloir parler de bilan, pouvez-vous nous dire quelle est ou quelles sont les réalisations de ces trois premières années dont vous êtes le plus fier ou du moins qui, à votre avis, ont marqué le début de votre mandat ?
Christian, c'est surtout, je pense, sur le plan humain et sur la proximité que j'essaye d'insuffler à l'échelle d'une intercommunalité aussi grande que la nôtre. 62 communes et un territoire extrêmement vaste. Donc on a, je pense, depuis le début de ce mandat, parce que c'est un travail d'équipe, instauré un climat de débat, d'échange constructif au sein de notre intercommunalité. Et ça, je pense que c'est une véritable nouveauté. On a des commissions intercommunales qui sont vivantes, dans lesquelles les élus s'impliquent. Alors on voit à mi-mandat que ça a tendance un peu à s'essouffler, mais je vais relancer une dynamique là d'ici la fin de l'année. J'ai instauré également les rencontres interco estivales que je fais tous les étés. Ça fait la troisième année consécutive que je le fais. Donc là, j'ai organisé 9 réunions où j'ai rencontré plus de 100 élus municipaux de communes rurales. Donc ça, c'est l'occasion d'échanger, de débattre dans des instances plus petites que le conseil communautaire qui rassemble 88 membres, où le débat est moins facile.
Oui, effectivement, parce qu'un conseiller municipal qui n'est pas membre du conseil communautaire, c'est bien qu'il soit informé et qu'il voie le président.
Tout à fait, c'est ça l'idée. Alors là, c'est surtout les maires et les adjoints qui sont conviés, hein, a priori. Mais en tout cas, je suis toujours à disposition des communes pour aller rencontrer les conseils municipaux. Ça, c'est important, je pense, dans une interco comme la nôtre.
Bien, donc, j'en conclue que votre réalisation première, c'est donc cette dimension humaine que vous avez su insuffler dans la communauté de communes. Alors maintenant, si on vient un peu aux travaux, aux réalisations de l'an dernier ou à celles qui vont venir.
Alors, beaucoup de projets au niveau de notre interco. C'est vrai qu'on a de nombreuses compétences qui nous font amener beaucoup de projets. Le domaine dans lequel on va beaucoup s'investir dans les années à venir, c'est surtout l'eau et l'assainissement. Donc il y a énormément de projets d'investissement qui vont être réalisés, des réhabilitations de stations d'épuration. Par exemple, on est en train de réaliser actuellement celle d'Esternay, où les travaux ont débuté il y a déjà quelques mois. On a pris un peu de retard, mais c'est un gros chantier. Donc grosso modo, sur les 6 ans qui vont venir, hein, d'ici la fin du mandat, quasiment c'est 15 millions d'euros dans le domaine de l'eau et 15 millions d'euros dans le domaine de l'assainissement que nous allons devoir investir. Après, il y a d'autres projets qui visent à renforcer les services publics de proximité. La construction d'une crèche à Esternay, on a lancé les marchés il y a peu de temps. On va bien entendu construire une cantine aussi à Cézanne, à l'école des Limonières, pour éviter que les enfants se déplacent, pour améliorer la qualité de vie des élèves. Et bien entendu, on va s'inscrire aussi dans des démarches surtout de planification. Parce que quand on est une grosse interco avec beaucoup de compétences, il faut fonctionner de manière raisonnée, intelligente, planifiée. Donc on s'inscrit beaucoup dans des schémas. On va mettre en place un schéma de défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal. C'est une première à l'échelle du département de la Marne. Donc on sera les pionniers. On devrait le voir aboutir d'ici la fin de l'année avec un programme pluriannuel d'investissement pour sécuriser nos communes sur le plan de l'incendie. On va aussi mettre en place un schéma directeur de l'eau potable où on doit mener une véritable réflexion stratégique sur notre territoire. Et l'événement récent qu'il y a eu là, à Broussy-le-Grand...
Je vais vous en parler.
Ah oui, voilà, parce que la population a été beaucoup affectée sur notre territoire. Alors nous, notre interco a été concernée au niveau de 5 communes. 5 communes rurales qui étaient donc privées d'eau pendant plusieurs jours. Donc la situation a été rétablie suite aux résultats de l'ARS. Mais à l'échelle de l'interco, on réfléchit aussi à la sécurisation de nos sites. Parce que ça, c'est une problématique d'avenir, j'ai envie de dire. Parce que l'eau est un enjeu majeur et il nous faut le préserver et le protéger. Donc on va s'inscrire dans le cadre de ces schémas directeurs à la mise en place d'un plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux. Donc on va voir comment sécuriser nos sites, bien réagir en cas de problème comme celui qu'on a rencontré il y a peu de temps.
Donc vous avez eu 5 communes là concernées par l'incident de Broussy-le-Grand. Et rappelez-nous combien il y a de communes dans la communauté de communes.
Alors la communauté de communes, c'est 62 communes. Et là, il y en avait 5 qui étaient concernées directement parce qu'ils sont reliés au syndicat du Mont Ahou qui est situé sur la communauté de communes voisine.
Donc effectivement, le défi du 21e siècle, ce sera celui de l'eau.
Moi, je suis intimement convaincu que c'était un des enjeux majeurs. Là, à l'heure actuelle, les grands défis qui vont se poser, c'est surtout préserver la qualité de la ressource en eau et la quantité, parce qu'on voit bien que les périodes de sécheresse vont maintenant s'enchaîner et que l'eau va devenir rare. Et donc ça, si on veut que nos citoyens puissent avoir encore de l'eau qui coule au robinet, ce qui paraît une évidence à l'heure où on se parle, dans les années à venir, ça sera peut-être plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des investissements importants à faire.
Merci Cyril d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup Christian, à bientôt.
Vous l'avez compris, un projet conséquent mais essentiel. Merci évidemment à Cyril Laurent et à Christian Lanciot. Ils étaient ensemble depuis Cézanne.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h43, Jean-Pierre Benoît est toujours avec nous. Dans les starting blocks, on parle médical tout de suite avec le docteur Hervé Runard.
Docteur Hervé Runard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on vous avait retrouvé il y a quelques jours à propos du Covid. Aujourd'hui, on va évoquer la situation des médecins. On peut dire que, si on parle morale des troupes un peu familièrement, on peut dire que les médecins, depuis quelques temps, ont un état d'esprit quand même, j'allais dire,
un peu chagrin,
un peu pessimiste.
Très chagrin. Vous avez
trouvé le mot. Très chagrin.
Très, très chagrin. Parce qu'effectivement, on voit ce métier quand même qui est quand même passionnant, que l'on pratique, moi, depuis déjà 35 ans. qui nous a donné beaucoup de joie, beaucoup de peine. Et aujourd'hui, on voit que le métier s'effiloche, que beaucoup de confrères, y compris sur Reims, donc on parlait beaucoup des campagnes où malheureusement les postes ne sont pas repris. Mais effectivement, maintenant, on a des situations, par exemple à Reims, où on va être 3 médecins à partir et pour le moment, aucun des 3 n'a un successeur, alors que les conditions de travail sont relativement favorables.
On a l'impression que les médecins, pourtant, ils ont de l'expérience, ils ont d'ailleurs des patients, une patientèle, vous-même, vous avez du monde chez oui. vous, qu'il y a un manque de perspective, en particulier pour les jeunes aussi.
Oui, ça je crois que on est encore sur les conséquences à distance de ces périodes Covid. Ces périodes où personne n'a rien compris, et effectivement, aujourd'hui, y compris dans nos jeunes remplaçants et futurs collègues, eh bien, ils n'ont pas de notion de perspective, parce qu'on a été quand même relativement malmenés au point de vue équipement, au point de vue tout ça, ça a marqué les esprits. On n'avait pas de masque, on n'avait rien. On a été exposés, certains ont été malades, d'autres sont décédés malheureusement. Donc effectivement, ça a mis un petit peu le doute dans l'esprit. Alors, quand on est actif, on n'a pas le choix, on continue. Les nouveaux, les futurs installés et jeunes installés, certains sont jetés à la mer, ils ont dit « Ok, on y va, on s'installe ». Et d'autres sont encore sur la réserve en disant « Pour le moment, comme il y a beaucoup de possibilités de remplacement, eh bien, les jeunes médecins préfèrent remplacer dans des conditions financières tout à fait honorables, au détriment des médecins installés, il faut le dire. Bah, » c'est tout, c'est comme ça. Donc, et ils n'ont pas envie. Ils disent « Oui, on préfère attendre, on préfère voir un peu si la consultation va monter, si, comment on peut travailler, etc. » Donc il y a un manque d'envie. Les connaissances, ils les ont largement aussi bonnes que les nôtres. Ce n'est pas un problème de compétences, c'est un problème d'envie. Et puis les gens ont envie de profiter de la vie, etc. C'est un peu la philosophie depuis Covid, on va profiter de la vie, etc. J'ai rien contre, c'est très bien. Mais à un moment, il faudra quand même s'installer, quoi.
Parce que l'époque, et vous l'avez connue, et vous y participez aujourd'hui encore, des médecins qui sont en consultation encore à 20 heures, oui. Parfois plus. Bon, les jeunes d'aujourd'hui,
ils n'ont plus envie de vivre,
veulent pas entrer dans cette boucle-là.
Voilà, alors ça, on peut le comprendre, voilà. Mais c'est pas avec le moins de médecins, parce que ceux qui restent en poste vont encore être obligés d'augmenter leur quantité de travail, et donc les suites à prendre quand ces médecins arrêteront, la situation va être encore pire, puisqu'ils ont été obligés de se charger par le manque de médecins actuels, et eux, les jeunes qui veulent s'installer, veulent dire « travaillez moins ». D'accord, mais pour ça, il faut être plus nombreux. Or, ce n'est pas encore le cas. Donc, effectivement, il faut accepter de travailler peut-être à temps partiel, et puis, je pense qu'il faudra bien se dire, et là, je pense aux patients de nos cabinets, que les conditions de travail vont changer, les conditions d'accueil vont changer un petit peu. Il faudra que les patients acceptent les nouvelles conditions que les jeunes leur demanderont d'accepter. Et bon, ben voilà, ce qui compte, c'est d'être soigné. Bon, après, voilà.
Il y a les soins, docteur Hervé Ruinard, mais il y a aussi toute la paperasserie administrative et peut-être parfois même les tracasseries de certaines caisses.
Oui, c'est actuellement, pas simple. On le voit avec la chasse à certains médecins sur les indemnités journalières, soi-disant avec un excès. Alors c'est vrai que depuis Covid, il faut le dire, les chiffres d'arrêt de travail sont de plus en plus importants, soit d'origine psychologique, soit pour raison physique. Bon, il n'y a pas que le Covid en cause, mais il y a eu quand même un virage qu'on a du mal à expliquer, une fragilisation de la population qui engendre des conditions de travail souvent plus difficiles ou moins bien acceptées. Et donc, du coup, on a des problèmes moraux qui viennent là-dessus. Malheureusement, les secteurs de psychiatrie sont en grande souffrance de par le nombre de praticiens, le nombre de psychologues. Les services sont complètement débordés, donc ça retombe un peu sur nous. Et nous, on fait ce qu'on peut du mieux possible en soutien psychologique et autres. On a recours à des médicaments, et ça, quelquefois, c'est un peu dommage, mais il faut aider. Donc, voilà, on arrive à une période vraiment qui, je pense que beaucoup de confrères partagent mon point de vue, et c'est une période nouvelle. Alors les jeunes sont un petit peu mal préparés. Nous, on l'a vécu au jour le jour, donc on a réussi à s'adapter. Les jeunes s'y adaptent, mais dans la mesure où ils ne font que des remplacements, ils ont du mal à se mettre dans la peau de la situation, de l'arrêt, de la souffrance au travail, etc.
Ma remarque est peut-être complètement à côté de la plaque, mais peut-être qu'un jeune qui arrive, il préfère pratiquement peut-être remplacé en attendant que la situation s'éclaircisse, plutôt que de s'engager dans quelque chose dont il ne maîtrise pas l'issue.
Oui, mais le problème, c'est que là, dans les 5-6 ans, la démographie des médecins de ma génération on va être beaucoup à partir, et qu'on va être en majorité, malheureusement, pas remplacé, et que ça ne fait qu'aggraver le déficit. Donc, des remplacements, ils en auront toujours, mais il faut se mettre dans la perspective d'une politique de santé à grande échelle et pas uniquement au niveau d'une commune, etc. Donc la santé en général, voilà, et pour ça il faut des médecins, il faut des médecins sur le terrain. Si on les alors il vaut mieux les payer, c'est vrai qu'il faut revaloriser les et malheureusement les honoraires, eh bien là on va repartir pour une nouvelle discussion au mois de septembre avec les syndicats et
oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup bouger sur
non, cette... les gens sont surpris de ne pas avoir 26,50. Non, le 26,50, il devrait être acté, je crois, au 1er octobre et encore, et là on repart pour une nouvelle discussion,
mais il y a des délais très longs. Parce que ça fait longtemps.
Les délais sont longs parce qu'on en a parlé en début d'année. Hein. La consultation allait augmenter, etc. Les gens sont surpris de toujours payer 25. Mais ça aussi, les jeunes, si vous voulez, ils veulent plus ça. On vaut autre chose. Et quand on va chez beaucoup de spécialistes, c'est pas une critique, qui sont souvent secteur 2, eh bien on a des honoraires qui évidemment sont gonflés. Bah eux, ils sont un peu les. Donc bah du coup, je m'installe pas. Puis j'ai quand même des charges de cabinet, de secrétariat, etc. Donc on va vers un mode de travail qui va être différent. J'ai peur que la population en paye un peu le prix.
Alors bon, il faut rester optimiste en cette période de rentrée, docteur Hervé Ruinard, mais il faut bien remarquer et constater que le malaise augmente quand même. Il y a quand même une forme de malaise et que ce malaise s'installe et que finalement c'est un état d'esprit qui ne rend pas optimiste et qui
voilà.
Ne donne pas.
Alors si nous on n'est pas là pour soutenir un petit peu la population qui est déjà en difficulté, eh bien effectivement ça va devenir compliqué pour beaucoup de monde parce que là il y aura plus de recours. Les psychiatres, les délais, les psychologues, c'est pareil. Nous ça sera pareil. Donc il va y avoir une souffrance profonde de la société actuelle. Moi, c'est ce qu'on constate au quotidien, vraiment dans les cabinets. Et je pense que là, nos dirigeants ne sont pas du tout à l'écoute. Mais n'importe comment, même s'ils écoutaient, il est déjà presque trop tard. Donc, je suis pas très optimiste quand même.
Merci, docteur Hervé Ruinard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit dans quelques jours,
dans quelques temps, voilà.
Et on fera
pas
le point sur la situation de l'hôpital et aussi des médecins généralistes.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Retour dans notre diocèse à 18h51. Depuis 1863, à l'initiative du curé de l'époque, un pèlerinage paroissial se déroule le troisième dimanche de septembre en l'église de Scrue, dans la paroisse Saint-Jean-Bosco, au seuil du Pertois, dans l'espace missionnaire du Pertois, du diocèse de Chalon, évidemment. Dans l'église, de nombreux objets font référence à Notre-Dame de la Salette en Isère. Pour nous en parler, Suzanne Maire et Aline Robin de la paroisse Saint-Jean-Bosco, au seuil du Pertois.
Bonjour, aujourd'hui je vous invite à aller du côté de Scrue, où la paroisse Saint-Jean-Bosco au seuil du Pertois, comme chaque année, vous propose un pèlerinage local à Notre-Dame de la Salette. Et pour en savoir plus, aujourd'hui j'ai près de moi Suzanne Maire, bonjour.
Bonjour Gérald.
Suzanne, dites-nous où se trouve la commune de Scrue.
Alors nous sommes à Scrue, village de 130 habitants, qui se situe sur la grande route qui relie Vitry-le-François à Saint-Dizier, à environ 9 km de Thieblemont. L'église date du XIIIe siècle. En entrant dans la nef, vous voyez à gauche et à droite, en hauteur, avant le chœur, deux statues qui ont été retrouvées dans le grenier de la mairie où elles avaient été cachées à la Révolution. À gauche, Saint-Jean. Statue de bois de grande valeur qui a été prêtée il y a quelques années pour une exposition. À droite, une Vierge des douleurs. Ces deux statues sont du XVIe siècle. À l'intérieur du chœur, de chaque côté du Christ, les statues de Saint-Luc à droite et Saint-Rémy à gauche datent du XVIIe siècle. Ces quatre statues font partie des objets protégés aux monuments historiques. Le 18 avril 2015, nous avons assisté au remplacement de la cloche qui avait été fondue sous Louis XV en 1768. La nouvelle cloche, Marie, Rémy et Luc, fondue à Villedieu-les-Poêles.
Suzanne, parmi les statues dont vous parliez il y a quelques instants, il y en a une qui a un lien avec Notre-Dame de la Salette ?
Alors, celle qui représente Notre-Dame de la Salette, c'est dans l'autel qui est à gauche de la nef et accompagné de Maximin et Mélanie, en statue bien sûr. Chaque année, depuis 1863, nous la fêtons le troisième dimanche de septembre, en souvenir de la date des apparitions. La Salette, pour ceux qui l'ignorent, se situe aux confins sud du département de l'Isère, au-dessus du village de Cor, à 1800 mètres d'altitude. Le 19 septembre 1846, deux petits bergers, Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calva, 14 ans, qui gardaient leur troupeau sur les hauteurs, disent qu'ils ont vu une belle dame toute en pleurs et toute de lumière. Elle leur confie un message de conversion pour tout son peuple. En 1851, l'évêque de Grenoble reconnaît la véracité de l'événement. Or, en 1863, un ancien prêtre de notre paroisse, qui était allé à la Salette, a fondé ce pèlerinage ici, à Scru, et il a été entretenu par les curés successifs. Le Triduum commençait le jeudi et se terminait le dimanche. Il était prêché par un missionnaire ou une personnalité religieuse. Le jeudi, à l'époque jour de congé pour les enfants, on les réunissait avec ceux des paroisses voisines pour des occupations diverses, films, jeux, etc. Et la messe clôturait la journée. Le vendredi, nous avions la messe le matin et une veillée le soir. Le samedi soir, nous nous réunissions sur la place autour de la statue de la Vierge et ensuite nous faisions la procession au flambeau jusqu'à l'église en chantant le cantique à Notre-Dame de la Salette. Arrivés à l'église, nous avions la messe. Le dimanche, le Triduum se terminait par une messe pontificale présidée par l'évêque, les prêtres, les chanoines et les séminaristes. L'évêque était reçu par une famille avant les vêpres, où l'on sortait bannières et oriflammes pour processionner jusqu'à la place où se terminait la cérémonie. Peu à peu, l'évolution du monde aidant, c'est devenu un pèlerinage paroissial où chaque année on essaie de s'adapter. Une année, une reconstitution avec mime des apparitions avec les enfants du catéchisme. L'année dernière, soirée gospel. Et cette année, le programme est le suivant. Vendredi 15 septembre, 18h30, chemin de croix. Samedi 16 septembre, 20h30, soirée louange. Dimanche 17 septembre, 10h30, départ de la messe près du lavoir rue du Chêne Vert, procession vers l'église par le sentier de la Boudière, et suite de la messe dominicale, suivie du vers de l'amitié.
Aline Robin, bonjour.
Bonjour Gérald.
Vous êtes le veilleur du célébré de la paroisse Saint-Jean Bosco au seuil du Pertois. Est-ce qu'il y a des paroissiens qui connaissent Notre-Dame de la Salette là-haut sur la montagne?
Peut-être que certains sont allés à titre privé à la Salette, mais ça faisait très longtemps que nos curés nous parlaient de faire un pèlerinage là-bas. Mais cette année, Gaspard y tenait absolument, et puis je pense que ça faisait plaisir aussi au père Édouard Bontou, et nous avons organisé ce pèlerinage avec le diocèse. Donc nous sommes partis à 40. Ce fut un gros moment de joie de découvrir cette superbe basilique en haut de la montagne et de pouvoir prier avec nos frères italiens, polonais, français, venant des pays d'Afrique et de tous les environs. C'était vraiment un grand moment de partage. Et ce pèlerinage nous a permis aussi d'aller à Notre-Dame du Laos et aller sur les pas de Saint-Jean-Marie Vianney à Ars.
Aline, ce pèlerinage local, paroissial, il est ouvert à tout le monde ?
Ah mais bien sûr, et c'était un moment justement qu'on voulait rendre célébration pour tout l'espace missionnaire, mais tu sais très bien que c'est la journée aussi du patrimoine, donc les différentes églises sont ouvertes dans nos villages, et cet événement nous fait un petit peu de l'ombre, mais des familles entières viennent à Notre-Dame de la Salette de Scru parce que ça a été la tradition chez elles et parce que c'est un plaisir de se retrouver. On est comme une famille en quelque sorte. Et puis cette joie de prier Marie, de prier aussi pour la croix glorieuse avec la croix glorieuse de vendredi par un chemin de croix. Donc c'est rentré, j'allais dire, dans les mœurs de notre paroisse et j'espère que ça va continuer longtemps. quand notre évêque est venu, c'est vrai qu'il y a eu un mime des enfants du catéchisme. Ils étaient costumés, déguisés. Ça a été une très, très belle journée qui a donné envie de continuer, qui nous a reboostés. Et nous espérons que d'autres enfants auront envie de venir nous rejoindre et processionneront avec nous et prieront la Vierge et imploreront son Fils.
Suzanne, Aline, merci.
Merci, merci Gérald.
Vous avez reconnu sa voix, vous avez entendu son nom. C'était Gérald Gaillet qui a mené l'interview de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Le pèlerinage local à Notre-Dame de la Sellette est prévu du vendredi 15 au dimanche 17 septembre. C'est ce week-end donc dans l'église de Scru. Voilà pour les nouvelles. Vous avez noté le rendez-vous demain 18h10, 19h, le magazine régional. Émission spéciale. Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, sera notre invité exceptionnel pendant 50 minutes. Ne ratez pas ce rendez-vous extraordinaire. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.